Rencontre littéraire, Václav Richter.
Que peut bien faire un Tchèque en Alsace ? Demande un des personnages de la nouvelle intitulée « La cathédrale de Strasbourg ». La vie de son auteur Jiří Weil a été cruellement marquée par les régimes totalitaires du XXe siècle. Déjà dans les années 1930, ce communiste convaincu connaît pendant son séjour en Union soviétique la prison stalinienne et n'échappe au goulag que grâce à l'intervention des communistes tchèques. Échappant aux Caraïbes staliniens, il tombe dans la gueule de style nazi. D'origine juive, il ne survit à la Deuxième Guerre mondiale que parce qu'il décide de disparaître, de passer à la clandestinité. Jiří Weil laissera à la postérité plusieurs romans, un recueil de nouvelles qui, sans être tout à fait autobiographique, reflètent les déboires amers de sa vie. Sa nouvelle, La cathédrale de Strasbourg, dans laquelle il raconte sa vie en Alsace, a tellement intrigué Alena Wagnerova, pédagogue, dramaturge et écrivain tchèque, qu'elle s'est lancée sur les traces du périple alsacien de Jiří Weil et racontait ensuite cette aventure dans un texte intitulé « Que peut bien faire un Tchèque en Alsace ?». Les deux textes réunis dans un livre ont été traduits en français par la journaliste de Radio Prague, Anna Kubišta, qui a bien voulu nous les présenter. Tâchons donc d'abord de résumer, si possible, les nouvelles de Jiří Weil et d'Alena Wagnerova.
Alors, en 1938, l'écrivain Jiří Weil, qui est aussi l'auteur de deux ouvrages connus, Vivre avec une étoile et Mendelssohn est sur le toit, qui sont parus en France d'ailleurs, et son compagnon de voyage se rendent en Alsace, et Weil raconte en fait leur périple, d'abord à Strasbourg, où ils admirent la cathédrale, ils déjeunent, puis ils partent en direction de Ribeauvillé. En fait, Ribeauvillé, c'est une petite ville qui se trouve au pied des Vosges, à quelques kilomètres de Colmar, et ils sont en fait à la recherche d'un sculpteur baroque tchèque qui aurait laissé des statues, donc sculpté des statues qui se trouveraient dans le parc d'un château dans cette petite ville de Ribeauvillé. Voilà, qui visiblement, donc d'après ce que raconte Weil, serait également le siège de diaconesse allemande qui s'y trouverait. Et Weil et son compagnon donc s'y rendent, découvrent en effet ces statues dans ce parc. Et Weil raconte notamment comme ils se font assez mal voir par les Alsaciens du cru, parce qu'ils sont véhiculés par un certain Monsieur Prusse, qui a un nom quand même très évocateur, même s'il écrit à l'allemande, mais enfin ça fait penser à la Prusse, qui est visiblement à l'époque, en 1938, pro-nazi. Et puis parce qu'ils se rendent aussi donc dans ce parc des diaconesses, qui sont réputés visiblement pour leur pan-germanisme et leurs inclinations plutôt hitlériennes. Et en fait, tout s'arrange à la fin de la nouvelle lorsqu'ils discutent avec le maire autour d'un bon verre de vin et autour, je sais plus si c'est autour d'une choucroute, je suis plus sûre, mais où ils discutent et en fait, ils se rendent compte que finalement, les Tchèques et les Alsaciens sont assez proches. Et puis, la nouvelle d'Alena Wagnerova, en fait, c'est 66 ans plus tard, sur les traces de Weil et de Josef Brosch, donc ce sculpteur baroque. Mais ça, je pense qu'elle peut en parler elle-même plus précisément.
En quoi réside donc l'intérêt de ces nouvelles ? Pourquoi tu as décidé de les traduire ?
Alors, l'intérêt de ces nouvelles, c'est notamment parce que il pose le problème de ces régions frontières, hein, donc l'Alsace, pour le coup, mais aussi le problème des Sudètes. C'est comme l'explique en effet Madame Wagnerova dans sa nouvelle. En fait, Weil, Jiří Weil, se sert du cas alsacien pour évoquer celui des Sudètes en 1938. Il faut pas oublier qu'à ce moment-là, quand il écrit, on est à la veille de la guerre, Hitler est aux portes de la Tchécoslovaquie, les Allemands des Sudètes s'agitent et menacent l'intégrité du pays. Ça, c'est un aspect, voilà. Et puis pour moi, bon, l'intérêt était très personnel, puisque tu me poses la question. C'était un aspect plus intime, j'allais dire. Quand Alena Wagnerova, à l'époque, m'a parlé de ses nouvelles, en fait, j'ai tout de suite eu envie de les traduire. Donc je suis franco-tchèque, j'ai grandi en Alsace sans être alsacienne, mais en fait j'ai découvert assez tardivement que j'aimais beaucoup cette région et cette terre, comme j'aime les pays tchèques, et on pourra en reparler plus tard, mais pour moi ces deux terres ont beaucoup en commun, en fait.
Jiří Weil l'a comparé dans sa nouvelle Alsace à la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'une telle comparaison est possible ?
Dans une certaine mesure, oui, je pense. L'argumentation de Weil, au fond, comme en tout cas le décrypte Alena Wagnerova dans sa nouvelle, c'est que Weil aurait aimé qu'il y ait des Allemands des Sudètes à l'époque, comme l'étaient les Alsaciens, en fait, qui, en parlant allemand et en étant critiques vis-à-vis du gouvernement tchèque central, se seraient quand même identifiés à l'État tchécoslovaque. Et pour lui, en fait, l'exemple alsacien lui semblait un modèle dont il faudrait s'inspirer. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance, en général, à comparer tchèque à alsacien. Voilà, c'est ma version à moi.
Maintenant, donc, les deux nouvelles font partie d'un seul livre, un livre que tu as déjà présenté en Alsace. Comment le livre a été accueilli par les Alsaciens?
Alors, il y a eu une première lecture, mi-octobre, justement, à Ribeauvillé même, donc au cœur des nouvelles. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui étaient présentes. Je pense que le livre a été plutôt bien accueilli. Il y a eu quelques précisions, d'ailleurs, qui ont été faites par les gens, par les locaux. Il y a même une archiviste qui est venue, qui sachant qu'il y avait cette lecture, avait préparé des documents, et il y avait des documents en fait qui établissaient historiquement la présence de Josef Brosch, donc ce sculpteur baroque tchèque, en Alsace, à Ribeauvillé. D'ailleurs, il s'est installé là-bas, hein, il s'est marié, il y a vécu toute sa vie, il y est mort. Et d'ailleurs, ses enfants plus tard ont été sculpteurs sous le nom de Brosch, mais francisé, Broche, qu'on retrouve à Paris. Et puis, voilà. Puis il y aura une prochaine lecture, en fait, le 8 novembre à Schiltigheim, près de Strasbourg, dans la salle du Cheval Blanc. Voilà, pour ceux qui aimeraient venir.
Jerzy Weil a décrit dans sa nouvelle quelques personnages. Il les a décrits avec beaucoup d'humour. Est-ce que les Alsaciens se sont identifiés avec le portrait de leur compatriote que Jerzy Weil a brossé dans sa nouvelle?
Je saurais pas dire exactement. C'est vrai que les gens ont beaucoup ri en fait quand Jerzy Weil décrit les Alsaciens, décrit un peu leur caractère, etc. Bon, ça c'est pas Jerzy Weil qui le dit, mais je pense que ça transparaît quand même pas mal dans sa nouvelle. Et Alena Wagnerova le présente également, ce caractère des Alsaciens par l'intermédiaire d'une citation donc de son voisin alsacien. Qui dit que les Alsaciens s'adaptent toujours. Finalement, quand c'est les Français qui les gouvernent, ils parlent français. Quand c'est les Allemands qui les gouvernent, ils parlent allemand. Si c'était les Russes qui les gouvernaient, ben, ils parleraient russe, mais au fond, ce qui reste, c'est alsacien. Et je pense que ça, Weil l'a très bien quand même compris à l'époque, ça c'est sûr, quoi.
Tu as ajouté au livre une petite postface où tu insistes sur les ressemblances entre les Tchèques et les Alsaciens. Qu'est-ce que nous avons en commun avec les Alsaciens?
Les liens entre l'Alsace et la Bohème, bon, ça c'est un peu mon petit dada personnel et un peu obsessionnel. Moi je cherche un peu tout ce qui les rassemble, tout ce qui les lie. Alors il y a des goûts communs, hein, par exemple tout bêtement la bière, le vin blanc, la choucroute, hein, faite de manière différente. Mais quand même il y a le chou qui est là, le porc, la viande de porc. Et puis après, bon, il y a aussi tous les côtés historiques. Pour moi, ce qui est très important, en tout cas sur ces liens Alsace-Bohême, c'est que ce sont toutes deux des terres que j'appelle prises en sandwich. D'une part parce qu'il n'y a pas la mer, finalement il n'y a pas d'ouverture vers le large, vers l'horizon, etc. Ensuite, prises en sandwich historiquement, puisqu'elles ont toutes les deux en commun d'avoir été plusieurs fois un peu, j'allais dire, placées, enfin voilà, sous le joug allemand, si on veut, en tout cas sous l'influence allemande, qui pouvait être positive ou négative. Et puis après, il y a une histoire commune, tout simplement, par exemple, Charles IV, donc l'empereur de Bohême, qui a fondé la décapole alsacienne, qui collectait des reliques, qui a ramené énormément de reliques de la sainte patronne alsacienne, sainte Odile à Prague. Les Tchèques, hein, en 1870, ont été les seuls à protester au sein de l'Empire austro-hongrois contre l'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, à l'Empire allemand. Et de même, il existe une plaque que moi j'ai beaucoup vue quand j'étais justement, quand j'étudiais l'histoire au palais universitaire à Strasbourg. Il existe une plaque en fait, qui est en fait une plaque où les étudiants tchèques également ont manifesté leur soutien aux étudiants alsaciens en 1872, puisque visiblement déjà à l'époque ils se reconnaissaient une sorte d'affinité élective avec les Alsaciens, une espèce de destin commun finalement de petits pays toujours ballottés entre les frontières.
« C'était donc un entretien avec la traductrice des nouvelles de Jiří Weil et d'Alena Wagnerova, Anna Kubišta. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Aleš Krupka, prise de son.